Que Dieu, la Vierge bienheureuse et tous les saints du paradis m'assistent à présent que je vais dire ce qui m'arriva. La pudeur, la dignité de mon état, vieux moine désormais dans ce beau monastère de Melk, lieu de paix et de sereine méditation, me conseillerait de très pieuses précautions. Je devrais dire simplement que quelque chose de mal se passa, mais qu'il n'est pas honnête de répéter ce que ce fut, et je ne porterai le trouble ni en moi ni chez mon lecteur. Mais je me suis proposé de raconter sur ces événements lointains toute la vérité, et la vérité est indivise, elle brille de sa propre évidence et ne consent pas d'être réduite par nos intérêts et par notre honte. Le problème est plutôt de dire ce qui se passa, non point comme je le vois, et me le rappelle à présent, même si je me rappelle tout avec une impitoyable vivacité, et je ne sais si ce fut le repentir qui fixa d'une façon si vivace faits et pensées dans ma mémoire, ou l'insuffisance de ce même repentir qui encore me tourmente, donne envie dans mon esprit affligé à la moindre nuance de ma honte, mais comme je le vis et le sentis alors. Et il m'est loisible de le faire avec une fidélité de chroniqueur, car si je ferme les yeux, je peux tout répéter de ce que je fis et même penser en ces instants, comme si je copiais un parchemin écrit alors. Il me faut donc ainsi aller de l'avant, et que Saint-Michel-Archange me protège, parce que pour l'édification de mes lecteurs futurs et la fustigation de ma faute, je veux raconter maintenant comment un jeune homme peut donner dans les trames du démon, afin que ces dernières puissent être connues et manifestes, et que celui qui encore donne dedans puisse les défaire. C'était donc une femme. Que dis-je ? Une toute jeune fille. Ayant eu jusqu'alors, et depuis lors, grâce en soit rendue à Dieu, peu de familiarité avec les êtres de ce sexe, je ne sais dire quel âge elle pouvait avoir. Je sais qu'elle était jeune, presque adolescente, peut-être avait-elle 16 ou 18 printemps, ou peut-être 20, je fus frappé par l'impression d'humaine réalité qui émanait de cette figure. Ça n'était pas une vision. Et elle me parut en tout cas Valdebonne. Peut-être parce qu'elle tremblait comme tremble un oisillon l'hiver, et pleurait, et avait peur de moi. Ainsi, pensant que le devoir de tout bon chrétien est de secourir son prochain, je m'approchai d'elle avec grande douceur, et en bon latin je lui dis qu'elle ne devait avoir nulle crainte parce que j'étais un ami, en tout état de cause pas un ennemi, certainement pas l'ennemi comme sans doute elle le redoutait. Peut-être à cause de la mansuétude qui émanait de mon regard, la créature se calma et vint à moi. Je m'aperçus qu'elle ne comprenait pas mon latin, et d'instinct, je lui adressai la parole dans mon allemand vulgaire, ce qui l'effraya au plus haut point. Je ne sais si à cause des sons âpres, inusités chez les gens de cette contrée, ou parce que ces sons lui rappelaient quelques autres expériences avec des soldats de mes terres. Alors je souris, considérant que le langage des gestes et du visage est plus universel que celui des mots, et elle s'apaisa. Elle me sourit elle aussi, et me dit 2 ou 3 mots. Je connaissais très peu sa langue vulgaire. Elle était en tout cas différente de celle que j'avais en partie apprise à Pise, toutefois je m'aperçus d'après le ton qu'elle me disait des mots doux, et me sembla-t-il quelque chose comme « Toi tu es jeune, toi tu es beau ». Il arrive rarement à un novice qui a passé toute son enfance dans un monastère d'entendre des déclarations sur sa beauté. On est plutôt bien averti que la beauté corporelle est fugace et qu'il faut la tenir pour fort vile. Mais les trames de l'ennemi sont infinies et j'avoue que cette allusion marquée à ma vénusté, pour mensongère qu'elle fût, pénétra avec vive douceur dans mes oreilles et me donna une irrépressible émotion. D'autant qu'en disant cela, la jeune fille avait tendu la main vers moi et du bout de ses doigts effleuré ma joue, alors complètement imberbe. J'en éprouvais comme une impression de défaillance, mais à ce moment-là, je n'arrivais pas à ressentir l'ombre d'un péché dans mon cœur. Tant peut le démon quand il veut nous mettre à l'épreuve et effacer de notre âme les traces de la grâce. Qu'éprouvais-je ? Que vis-je ? De cela, je me souviens. Les émotions du premier instant furent dénuées de toute expression parce que ma langue et mon esprit n'avaient pas été éduqués à nommer des sensations de ce genre. Jusqu'au moment où il me souvint d'autres paroles intérieures, entendues en d'autres temps et en d'autres lieux, certainement dites pour d'autres fins, mais qui me semblèrent admirablement s'harmoniser avec le plaisir de ces instants-là, comme si elles étaient consubstantiellement nées pour l'exprimer. Des paroles qui s'étaient pressées en foule dans les cavernes de ma mémoire s'exhalèrent à la surface muette de mes lèvres, et j'oubliais qu'elles avaient servi dans les Écritures ou sur les pages des saints à exprimer des réalités combien plus flamboyantes. Mais au vrai, y avait-il une telle différence entre les délices dont avaient parlé les saints et celles que mon âme troublée éprouvait en cet instant? En cet instant s'annula en moi le sentiment vigilant de la différence, qui est précisément, ce me semble, le signe du ravissement dans les abîmes de l'identité. D'un coup, la jeune fille m'apparut ainsi que la Vierge Noire, mais toute belle dont parle le cantique. Elle portait une pauvre robe élimée de toile écrue qui s'ouvrait assez impudique sur sa poitrine, et au cou un collier de menues pierres colorées et, je crois, sans valeur aucune. Mais sa tête se dressait fièrement sur un cou blanc comme une tour d'ivoire. Ses yeux étaient clairs comme les piscines des Hesbon, son nez était une tour du Liban, les nattes de son chef comme la pourpre. Oui, sa chevelure m'apparut comme un troupeau de chèvres, ses dents comme des troupeaux de brebis qui remontent du bain, chacune à sa jumelle, si bien qu'aucune d'elles ne primait sur sa compagne. « Et que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle !» me pris-je à murmurer. « Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres ondulant sur les pentes de Galaad, tes lèvres comme un ruban de pourpre, tes joues des moitiés de grenade, ton cou est comme la tour de David où sont suspendues 1000 rondaches. » Et je me demandais, épouvanté et ravi, quelle était celle-ci, surgissant devant moi comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, terribilis ut castrorum acies ordinata. Alors, la créature s'approcha encore plus de moi, jetant dans un coin le paquet sombre qu'elle avait jusqu'alors tenu serré contre sa poitrine, et elle leva encore une main pour caresser mon visage, et elle répéta encore une fois les mots que j'avais déjà entendus. Et tandis que je ne savais pas si la fuir ou m'approcher davantage encore, tandis que ma tête palpitait comme si les trompettes de Josué allaient faire crouler les murs de Jéricho, et qu'en même temps je désirais et tremblais de la toucher, elle eut un sourire de grande joie, émit un gémissement étouffé de chèvre attendrie, et défit les lacets qui retenaient encore sa robe sur sa poitrine, qu'elle fit glisser de son corps comme une tunique. Et elle resta devant moi comme Ève devait être apparue à Adam au jardin de l'Éden.